Chapitre 168. Ô toi, dame du royaume, loue Dieu de t'avoir éveillée en cet âge, l'âge de la dispensation de Baha'u'llah, et de t'avoir donné conscience de la manifestation du Seigneur des armées. Tous les habitants du monde sont enfouis dans les tombeaux de la nature, ou assoupis dans l'inattention et l'inconscience. Comme a dit le Christ, je puis venir sans que vous en soyez avertis. La venue du Fils de l'homme est comme celle d'un voleur dans une maison, dont le maître est dans l'ignorance la plus complète. En résumé, j'espère que grâce aux générosités de Baha'u'llah, tu pourras progresser jour après jour dans le royaume, devenir un ange céleste confirmé par le souffle du Saint-Esprit, et édifier une structure qui demeurera éternellement ferme et inébranlable. Ces jours sont très précieux. Saisis l'occasion présente et allume une lampe qui jamais ne s'éteindra et qui déversera sa lumière, éclairant éternellement le monde de l'humanité. Chapitre 169. Ô vous deux, âmes patientes, j'ai bien reçu votre lettre. La mort de ce jeune homme bien-aimé et sa séparation de vous ont suscité le chagrin le plus cruel, car à la fleur de l'âge et dans sa prime jeunesse, il a pris son vol vers le céleste nid. Mais il a été libéré de ce douloureux refuge. Il a tourné son visage vers le nid éternel du royaume et, délivré d'un monde étroit et obscur, il s'est hâté vers le monde sanctifié de la lumière. En cela réside la consolation de nos cœurs. L'inscrutable sagesse de Dieu est à la base de tels événements douloureux. C'est comme si un jardinier bienveillant transférait un jeune et tendre arbrisseau d'un endroit confiné à une vaste zone aérée. Or, ce transfert n'est pas la cause du dépérissement, de l'amoindrissement ou de la destruction de cet arbrisseau. Non, il lui permet au contraire de croître et de prospérer, d'acquérir sa fraîcheur et sa délicatesse, de verdir et de porter des fruits. Ce secret caché est bien connu du jardinier. Mais les âmes qui n'ont pas conscience de cette générosité supposent que le jardinier, dans sa colère, a déraciné l'arbrisseau. Cependant, pour ceux qui sont au courant, ce fait dissimulé est manifeste et ce décret prédestiné est considéré comme une générosité. Ainsi, ne soyez pas affligés ou désolés par l'ascension de cet oiseau de fidélité. Non, en toutes circonstances, priez pour ce jeune homme, implorant pour lui le divin pardon et l'élévation de son rang. J'espère que vous parviendrez à la patience, à la quiétude et à la résignation suprême. Je supplie et implore au seuil d'unicité, priant pour le pardon de Dieu. Mon espoir est que par son infinie munificence, il accorde refuge à cette colombe du jardin de la foi, et la fasse demeurer sur la branche de l'Assemblée suprême, afin qu'elle chante, dans les plus douces mélodies, la louange et la glorification du Seigneur des noms et des attributs. Chapitre 170. Ô toi qui cherches le royaume, ta lettre m'est parvenue. Tu m'écris au sujet de la cruelle calamité qui t'a frappé, la mort de ton mari respecté. Cet homme honorable a été tellement soumis aux tensions et aux fatigues de ce monde qu'il éprouva le désir ardent d'en être délivré. Telle est cette demeure mortelle, une réserve d'affliction et de souffrance. C'est l'ignorance qui entrave les hommes, car aucune consolation ne peut être gagnée par une âme en ce monde, du monarque jusqu'au plus humble des citoyens. Si un jour cette vie nous offre une coupe de douceur, 100 coupes amères suivront. Telle est la condition de ce monde. C'est pourquoi l'homme avisé ne s'attache pas à cette vie mortelle et n'en dépend point. Parfois même il désire vivement la mort afin de pouvoir être ainsi délivré de ses chagrins et de ses afflictions. Il arrive donc que certains, sous l'extrême pression de leur angoisse, mettent fin à leur existence. Quant à ton mari, sois sans crainte, il sera plongé dans l'océan du pardon et deviendra le bénéficiaire de la générosité et de la faveur divine. Fais de ton mieux pour donner à son enfant une formation bahaï, afin que, parvenu à la maturité, il soit miséricordieux, illuminé et céleste. Chapitre 171. Ô toi, bien-aimée servante de Dieu, bien que la perte d'un fils nous brise le cœur et excède les limites de l'endurance humaine. Pourtant, celle qui sait et comprend est assurée que son fils n'a pas été perdu, mais plutôt qu'il est passé de ce monde dans un autre et qu'elle le retrouvera dans le royaume divin. Cette réunion durera à jamais, tandis qu'en ce bas monde, la séparation est inévitable, apportant avec elle une douleur cruelle. Dieu soit loué, tu as la foi, tu tournes ton visage vers le royaume éternel et tu crois en l'existence d'un monde céleste. Ainsi ne sois pas inconsolable, ne languis pas, ne soupire pas, ne gémis pas et ne pleure pas, car l'agitation et le deuil affectent profondément son âme dans le royaume divin. Cet enfant bien-aimé s'adresse à toi du monde caché. Ô toi, mère de bonté, remercie la divine providence de m'avoir libéré d'une cage réduite et obscure et de m'avoir permis, comme les oiseaux des prairies, de m'envoler vers le monde divin, un monde vaste, illuminé, toujours gai et jubilant. Donc, ne te lamente pas, ô mère, et ne t'afflige pas. Je ne suis pas parmi les disparus, je n'ai été ni effacé ni détruit. J'ai quitté ma forme mortelle et levé ma bannière en ce monde spirituel. À cette séparation succède une compagnie éternelle. Tu me trouveras dans le ciel du Seigneur, plongé dans un océan de lumière. Chapitre 172. Dieu soit loué, ton cœur se consacre à la commémoration de Dieu. Ton âme se réjouit de la bonne nouvelle et tu es absorbé dans la prière. L'état de prière est la meilleure des conditions, car l'homme est alors associé à Dieu. En vérité, la prière confère la vie, surtout lorsqu'elle est offerte en privé, par exemple à minuit, alors que l'âme est libérée des soucis quotidiens. Chapitre 173. Les âmes qui, en ce jour, entrent dans le royaume divin et parviennent à la vie éternelle, bien que demeurant matériellement sur terre, s'élèvent en réalité vers le royaume céleste. Leurs corps peuvent s'attarder sur terre, mais leurs esprits voyagent dans l'immensité spatiale, car lorsque les pensées s'élargissent et s'illuminent, elles acquièrent le pouvoir de l'envol et transportent l'homme vers le royaume de Dieu. Chapitre 174. Ô vous, amis spirituels d'Abdul-Baha, j'ai pris note du contenu de votre lettre, qui m'a grandement réjoui, et témoigne de votre fermeté et de votre constance dans la cause de Dieu. Cette assemblée demeure à l'ombre protectrice du Seigneur de toute munificence. Et c'est mon espoir que, comme il sied à ce rassemblement, il soit favorisé et revigoré par le souffle du Saint-Esprit, et que, jour après jour, vous aimiez Dieu toujours davantage, et deveniez toujours plus attaché à la beauté qui demeure à jamais, à celui qui est la lumière du monde. Car l'amour envers Dieu et l'attrait spirituel purifient le cœur humain, le revêtent et le parent du vêtement immaculé de sainteté. Et une fois que le cœur est entièrement attaché au Seigneur et voué à la perfection bénie, alors se révèle la grâce divine. Cet amour n'est pas celui du corps, mais entièrement celui de l'âme. Et les âmes dont l'être intime est éclairé par l'amour envers Dieu sont comme des rayons diffus de lumière et brillent telles des étoiles de sainteté dans un ciel pur et cristallin. Car le véritable amour, l'amour réel, c'est l'amour pour Dieu, qui est sanctifié au-delà des notions et des imaginations humaines. Que les bien-aimés de Dieu, tous sans exception, soient l'essence de la pureté, la vie de sainteté même, afin que dans chaque pays, ils deviennent renommés pour leur sainteté, leur indépendance d'esprit et leur douceur. Qu'ils soient encouragés par des gorgées de la coupe éternelle de l'amour pour Dieu, et qu'ils contemplent la beauté bénie, qu'ils ressentent la chaleur de la flamme, qu'ils soient saisis par cette rencontre et rendus muets de frayeur et d'étonnement. Telle est la condition des âmes sincères. Tel est le chemin des êtres loyaux. Tel est l'éclat rayonnant des visages de ceux qui sont proches de leur Dieu. C'est pourquoi les amis de Dieu doivent, empreint d'une extrême sainteté, s'élever d'un seul et même accord, en esprit et en unité, l'un avec l'autre, jusqu'à devenir semblables à un seul être et à une seule âme. À un tel niveau, les corps physiques ne jouent aucun rôle. C'est plutôt l'esprit qui domine et dirige. Et lorsque son pouvoir englobe toute chose, alors l'union spirituelle est accomplie. Efforcez-vous, nuit et jour, de développer votre unité jusqu'à l'extrême limite. Que vos pensées se concentrent sur votre propre développement spirituel. Et fermez les yeux au manquement des autres âmes. Agissez de telle manière, accomplissant de pures et nobles actions, manifestant modestie et humilité, que vous puissiez contribuer à éveiller vos semblables. Jamais Abdu'l-Bahá ne souhaite voir un être blessé, et jamais ne causera-t-il de l'affliction à quiconque. En effet, l'homme ne peut recevoir de plus noble présent que l'occasion de réjouir le cœur d'autrui. Je prie Dieu que vous deveniez des dispensateurs de joie, comme le sont les anges du ciel. Chapitre 175. Le charme mortel s'évanouira. Les roses céderont la place aux épines. Beauté et jeunesse auront leur temps et disparaîtront. Mais ce qui dure éternellement est la beauté du véritable, car sa splendeur ne périt point et sa gloire demeure à jamais. Son charme est tout-puissant et sa séduction infinie. Tant il en est de ce visage qui reflète la splendeur de la lumière du bien-aimé. Loué soit le Seigneur, tu en as été illuminé. Tu as acquis la perle de la connaissance véritable et proféré la parole de vérité. Chapitre 176. Ô toi qui attirais vers le royaume de Dieu, chaque âme cherche un objet, nourrit un désir et nuit et jour s'efforce d'atteindre son but. L'une aspire à la richesse, l'autre est assoiffée de gloire. Une autre encore languit après la renommée, l'art, la prospérité, etc. Pourtant, elles sont toutes vouées, en fin de compte, aux privations et aux déceptions. L'une comme l'autre, elles laissent derrière elles tout ce qui leur appartient et les mains vides se hâtent vers le royaume de l'au-delà. Tous leurs efforts resteront vains. Elles retourneront toutes à la poussière, dénudées, déprimées, découragées et en proie au plus profond désespoir. Loué soit le Seigneur, tu es engagé dans ce qui t'assure un gain qui durera éternellement. Et ce n'est rien d'autre que ton attraction vers le royaume de Dieu, ta foi et ta connaissance, l'illumination de ton cœur et tes efforts soutenus pour la promotion des divins enseignements. En vérité, ce présent est impérissable. Et cette richesse est un trésor issu des cieux. Chapitre 177. Ô vivante flamme de l'amour céleste, ton cœur s'est tellement embrasé de l'amour pour Dieu qu'à 10 000 lieues de distance, sa chaleur et son rayonnement peuvent être ressentis et observés. Le feu allumé de main mortelle n'apporte sa lumière et sa chaleur qu'à un espace réduit. Tandis que cette flamme sacrée, allumée par la main de Dieu, bien que brûlant à l'Orient, enflammera l'Occident et donnera sa chaleur au Nord comme au Sud. Elle s'élèvera plutôt de ce monde pour briller du plus ardent éclat dans les empires d'en haut, inondant de lumière le royaume de gloire éternelle. Heureux sois-tu d'avoir reçu un si céleste présent. Béni sois-tu d'être favorisé par ces divins bienfaits. Que la gloire de Dieu repose sur toi et sur ceux qui se cramponnent à la ferme poignée de sa volonté et de son alliance sacrée. Chapitre 178. Ô servante de Dieu, j'ai bien reçu ta lettre en date du 9 décembre 1918 et ai pris note de son contenu. Ne perds jamais ta confiance en Dieu. Sois toujours pleine d'espérance, car les générosités divines ne cessent jamais de se déverser sur l'humanité. Si, considérées d'un point déterminé, elles semblent diminuer, d'un autre point, elles sont pleines et entières. L'homme est, en toutes circonstances, plongé dans un océan de bénédictions divines. Ainsi, ne sois jamais désespéré, mais plutôt ferme en ton espoir. La participation aux réunions des amis est spécialement destinée à les garder vigilants, aimants, et attiré vers le divin royaume. Si le désir que tu as de te rendre à Pfilsburg, dans le Montana, est ardent et total, tu en as la permission. Peut-être pourras-tu allumer une lampe parmi ce groupe de mineurs et les rendre conscients et vigilants, afin qu'ils se tournent vers Dieu et reçoivent une part de la munificence du royaume divin. Chapitre 179. Efforcez-vous, autant que vous le pourrez, de vous tourner entièrement vers le royaume, afin d'acquérir le courage inné et le pouvoir idéal. Chapitre 180. J'espère qu'en ce bas monde, tu atteindras la lumière céleste, que tu délivreras les âmes des ténèbres de la nature que constitue le royaume animal, et que tu les feras parvenir à des degrés élevés dans le royaume humain. Aujourd'hui, tous les hommes sont plongés dans le monde de la nature. C'est pourquoi tu observes la jalousie, l'avidité, la lutte pour la survie, la duperie, l'hypocrisie, la tyrannie, l'oppression, les conflits, les différends, les effusions de sang et le pillage, qui, tous, émanent du monde de la nature. Rares sont ceux qui ont été délivrés de cette obscurité, qui se sont élevés du monde de la nature vers le monde de l'homme, qui ont observé les enseignements divins, ont servi le monde de l'humanité et qui resplendissent miséricordieux, illuminés et semblables à un jardin de roses. Fais ton possible pour devenir divin. Caractérisé par les attributs de Dieu, illuminé et miséricordieux afin d'être délivré de toute attache et de vouer ton cœur au royaume de l'incomparable Seigneur. Voilà la générosité Bahaï et voilà la lumière céleste. Chapitre 181. Quant à la déclaration de Baha'u'llah dans les paroles cachées, selon laquelle l'homme doit renoncer à son moi, elle signifie qu'il doit renoncer à ses désirs immodérés, à ses ambitions égoïstes et aux impulsions de son être humain pour rechercher les saintes brises de l'esprit, suivre les aspirations de son être supérieur et se plonger dans l'océan du sacrifice, le cœur fixé sur la beauté du très glorieux. Quant à la référence, dans les paroles cachées, à l'alliance conclue sur le mont Paran, elle signifie qu'aux yeux de Dieu, passé, présent et avenir ne font qu'un, alors que pour l'homme, le passé a disparu et il est oublié, le présent est éphémère et le futur est du domaine de l'espérance. C'est un principe fondamental de la loi de Dieu que lors de chaque mission prophétique, il conclut une alliance avec tous les croyants. Une alliance qui demeure jusqu'à la fin de cette mission, jusqu'au jour promis où le personnage annoncé à l'origine de la mission est rendu manifeste. Considérez Moïse, celui qui conversait avec Dieu. En vérité, Moïse, sur le mont Sinaï, conclut une alliance concernant le Messie avec toutes les âmes qui vivraient au temps du Messie. Ces âmes, bien qu'elles fussent apparues de nombreux siècles après Moïse, furent néanmoins, dans la mesure où l'alliance qui se situe hors du temps était concernée, présente là-bas avec Moïse. Les Juifs, cependant, ne s'en soucièrent et ne s'en souvinrent pas, subissant ainsi une lourde et évidente perte. Quant à la mention, dans les paroles cachées en arabe, selon laquelle l'être humain doit se détacher de son moi, elle signifie une fois encore que l'homme ne devrait rien désirer pour lui-même en cette vie fugitive, mais qu'il devrait retrancher son moi, c'est-à-dire renoncer au moi et à toutes ses préoccupations sur le chemin du sacrifice à l'heure de la venue du Seigneur. Chapitre 182. Ô vous qui vous accrochez à l'Alliance et au Testament. En ce jour, des empires du très glorieux, du royaume de sainteté où s'élèvent des hosannas de glorification et de louange, l'Assemblée céleste dirige vers vous son regard. Chaque fois que son regard illumine les rassemblements de ceux qui sont fermes dans l'Alliance et dans le Testament, alors elle émet son cri de « Bonne nouvelle, bonne nouvelle ». Alors, exultant, elle élève sa voix et s'écrie « Ô vous, communion spirituelle, ô vous, rassemblement divin, soyez bénis, que la bonne nouvelle soit sur vous, que vos visages s'illuminent et que vous ayez bon espoir, car vous vous attachez à l'alliance du bien-aimé de tous les mondes. Vous êtes enivré du vin de son testament. Vous avez donné votre foi à l'ancien des jours. Vous vous êtes abreuvé au calice de la loyauté. Vous avez gardé et défendu la cause de Dieu. Vous n'avez pas suscité le fractionnement de sa parole. Vous n'avez pas avili sa foi, mais vous avez lutté pour la glorification de son saint nom. Vous n'avez pas permis que la cause bénie soit exposée à la dérision des hommes, ni que le rang désigné soit abaissé. Vous n'avez pas voulu non plus que le centre de l'autorité soit discrédité ou livré à la moquerie et à la persécution. Vous avez combattu pour maintenir la parole une et intégrale. Vous avez passé par les portes de la miséricorde. Vous n'avez pas laissé la beauté bénie disparaître de vos consciences ni tomber dans l'oubli. Que la gloire repose sur vous. Chapitre 183. Ô toi, fille du royaume. J'ai bien reçu ta lettre. Elle était semblable à la mélodie du rossignol divin dont le chant réjouit les cœurs, car son contenu témoignait de ta foi, de ton assurance et de ta fermeté dans l'Alliance et dans le Testament. Aujourd'hui, le pouvoir dynamique du monde de l'existence est le pouvoir de l'Alliance, qui, pareil à une artère, bat dans le cœur du monde contingent et protège l'unité Bahaï. Il est ordonné aux Bahaï d'établir l'unité de l'humanité. Or, s'ils ne peuvent s'unir autour d'un seul point, comment seront-ils capables de réaliser l'unité du genre humain? En promulguant cette alliance et ce testament, la beauté bénie avait pour but de rassembler tous les êtres existants autour d'un seul point, afin que les âmes irréfléchies, qui dans chaque cycle et dans chaque génération ont provoqué la dissension, ne puissent saper les fondements de la cause. Il a donc décrété que tout ce qui émane du centre de l'Alliance est juste, se trouve sous sa protection et est l'objet de sa faveur, alors que tout le reste est erroné. Tu es, Dieu soit loué, ferme dans l'Alliance et dans le Testament. Chapitre 184. Ô vous, âmes bénies. Bien que vous soyez soumises à de cruciales épreuves du fait des tentations répétées et assidues de certains visant à ébranler la foi des amis à Los Angeles, vous êtes sous le regard protecteur de la munificence de Baha'u'llah et assistée par les légions angéliques. Avancez donc d'un pas assuré et consacrez-vous avec confiance et certitude absolue à proclamer les fragrances divines, à glorifier la parole de Dieu et à demeurer ferme dans l'Alliance. Soyez assurés que si une âme se lève dans une extrême persévérance, lance l'appel du royaume et résolument proclame l'Alliance, ne fût-elle qu'une fourmi insignifiante, elle parviendra à jeter le redoutable éléphant hors de l'arène et ne fût-elle qu'une faible mythe, elle mettra en loque le plumage du vautour rapace. Ainsi, efforcez-vous de disperser l'armée du doute et de l'erreur par le pouvoir des paroles sacrées. Ceci est mon exhortation, ceci est mon conseil. Ne vous querellez avec personne et évitez toute forme de conflit. Proférez la parole de Dieu. Si votre interlocuteur l'accepte, le but souhaité est atteint. Et s'il s'en détourne, laissez-le à lui-même et gardez votre confiance en Dieu. Tel est l'apanage de ceux qui sont fermes dans l'Alliance. Chapitre 185. Ô vous, amis et servantes du miséricordieux, j'ai reçu de l'Assemblée spirituelle de Los Angeles une lettre d'où il ressort que les âmes bénies de Californie, pareilles à une montagne immuable, résistent à la tempête de la violation, et que, telles des arbres bénis, elles ont été plantées dans le sol de l'Alliance où elles demeurent fermes et constantes. Ainsi ai-je l'espoir que par les bénédictions du soleil de vérité, ces âmes puissent croître jour après jour en constance et en fermeté. Les épreuves de chaque dispensation sont directement proportionnelles à la grandeur de la cause et, comme il n'avait pas été conclu jusqu'ici une telle alliance manifeste, rédigée par la plume suprême, les épreuves sont comparativement plus sévères. Elles provoquent l'hésitation chez les âmes faibles, alors que les âmes fortes demeurent inébranlables. Or, ces agitations de violateurs ne sont rien d'autre que l'écume des vagues de l'océan, l'un de ses traits inséparables. Mais l'océan de l'Alliance se dressera et rejettera sur le rivage les dépouilles des morts, car il ne peut les retenir. Ainsi voit-on que l'océan de l'Alliance s'est enflé, et enflé jusqu'à ce qu'il ait rejeté les cadavres, des âmes privées de l'Esprit de Dieu, perdues dans leurs passions et leur égoïsme, et qui cherchent à dominer. Cette écume de l'océan ne durera point. Elle se dissipera bientôt puis disparaîtra. Tandis que l'océan de l'Alliance s'enflera et mugira éternellement. Depuis la genèse de la création jusqu'à ce jour, à travers toutes les divines dispensations, il n'a jamais été conclu d'alliance aussi ferme et explicite. Dans ces conditions, est-il possible que cette écume demeure à la surface de l'océan de l'Alliance? Par Dieu, non. Les violateurs foulent aux pieds leur propre dignité, arrachent leurs propres fondements et s'enorgueillissent d'être soutenus par des flagorneurs qui accomplissent un grand effort pour ébranler la foi des âmes faibles, mais dont les actions demeurent sans effet. C'est là un mirage et non de l'eau, de l'écume et non la mer, de la brume et non un nuage, l'illusion et non la réalité. Bientôt, vous constaterez tout cela. Dieu soit loué, vous êtes ferme et constant. Soyez reconnaissant que, tels des arbres bénis, vous soyez solidement plantés dans le sol de l'Alliance. Il est certain que chaque être ferme se développera, donnera de nouveaux fruits, et chaque jour croîtra en fraîcheur et en grâce. Méditez sur tous les écrits de Baha'u'llah, qu'il s'agisse d'épîtres ou de prières, et vous rencontrerez sûrement un millier de passages dans lesquels Baha'u'llah prie en ces termes. Ô Dieu, réduis à néant les violateurs de l'Alliance et défais les oppresseurs du Testament. Celui qui renie l'Alliance et le Testament est répudié par Dieu, et celui qui demeure ferme et constant en eux est accueilli au seuil d'unicité. De telles paroles et prières abondent. Reportez-vous-y et vous saurez. Ne soyez jamais abattus. Plus vous êtes remués par la violation, plus vous gagnez en constance et en fermeté. Soyez persuadés que les armées divines triompheront, car elles sont assurées de la victoire du royaume d'Abba. De par le monde est levé l'étendard de constance et de fermeté, et dégradé le drapeau de la violation, car seules quelques âmes faibles ont été détournées par les flatteries et les arguments spécieux des violateurs qui, extérieurement, prennent le plus grand soin à exhiber leur fermeté, mais en leur être intime, s'appliquent à agiter les âmes. Seuls quelques-uns, à la tête des agitateurs, sont bien connus en tant que violateurs, alors que les autres trompent les âmes par de subtils moyens. Extérieurement, en effet, ils affirment leur constance et leur fermeté dans l'Alliance, mais lorsqu'ils rencontrent des cœurs faciles à émouvoir, ils sèment en secret les graines du soupçon. Les actes de tous ces détracteurs sont semblables à la violation de l'Alliance par Judas Iscariote et ses disciples. Réfléchissez, ont-ils laissé derrière eux quelques résultats, quelques traces? Ces disciples n'ont pas même laissé de nom. Et bien qu'un certain nombre de Juifs aient pris le parti de Judas, c'était comme si ce dernier n'avait aucun adepte. Ce Judas Iscariote, qui était le chef des apôtres, trahit le Christ pour 30 pièces d'argent. Prenez garde, ô vous, hommes de perception. Aujourd'hui, ces violateurs sans importance trahiront sûrement le centre de l'Alliance pour la forte somme que, par les moyens les plus subtils, ils ont convoitée. 30 années se sont écoulées depuis l'ascension de Baha'u'llah. Et à cette époque, ces violateurs avaient lutté de toutes leurs forces. Or, qu'ont-ils réalisé? En toutes circonstances, ceux qui sont demeurés fermes dans l'Alliance ont triomphé, alors que les violateurs ont connu la défaite, les déboires et le découragement. Après l'ascension d'Abdu'l-Baha, ils ne laisseront aucune trace. Ces âmes sont ignorantes de ce qu'il adviendra et fières de leur propre chimère. En résumé, ô vous, amis de Dieu et servantes du miséricordieux, la main de divine munificence a placé sur vos têtes une couronne sertie de bijoux, dont les pierres précieuses brilleront éternellement à travers l'espace. Appréciez cette générosité, déliez vos langues dans la louange et l'action de grâce, et mettez-vous à proclamer les enseignements divins, car c'est là que réside l'esprit de vie et l'instrument de salut. Chapitre 186. Ô toi qui es ferme dans l'Alliance, j'ai reçu de toi trois lettres successives, et ainsi ai-je appris que dans la ville de Cleveland, les cœurs sont affligés par les souffles ténébreux des briseurs d'alliance, et que l'harmonie entre les amis a décliné. Par Dieu, il a été prédit des centaines de fois que les violateurs se tiennent à l'affût et désirent, par tous les moyens, provoquer la dissension parmi les amis, afin que celle-ci puisse aboutir à la violation de l'alliance. Comment se fait-il que, malgré cet avertissement, les amis aient négligé cette déclaration explicite? La question est claire, directe, et d'une brièveté extrême. Ou bien Baha'u'llah était sage, omniscient et averti de ce qui s'ensuivrait, ou bien il était ignorant et dans l'erreur. Il a conclu de sa plume suprême une telle alliance et un tel testament avec tous les baïs, d'abord avec les Aksan, les Afnan et ses parents, leur ordonnant d'obéir et de se tourner vers lui. De sa plume suprême, il a explicitement déclaré que l'objet du verset suivant du Kitab et Aqdas est la plus grande branche. Lorsque l'océan de ma présence aura reflué et que sera achevé le livre de ma révélation, tournez-vous vers celui que Dieu avait en vue, celui qui est issu de cette antique racine. Le sens de ce verset peut se résumer ainsi. Après mon ascension, il incombe aux Aksan, aux Afnan, aux parents et à tous les amis de Dieu de se tourner vers celui qui s'est ramifié à partir de l'antique racine. Il dit aussi très clairement dans le Kitab Iraqdas, « Ô vous, habitants du monde, lorsque la colombe mystique aura pris son envol de son sanctuaire de louange et recherché son but lointain, sa demeure secrète, rapportez-vous pour tout ce que vous ne comprenez pas dans le livre à celui qui est issu de cette puissante souche. » S'adressant à tous les habitants du monde, il dit, lorsque la colombe mystique s'envolera du verger de louange vers la station suprême et invisible, c'est-à-dire lorsque la beauté bénie abandonnera le monde contingent pour l'invisible royaume, référez-vous, pour tout ce que vous ne comprenez pas dans le livre, à celui qui est issu de l'antique racine, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit est la vérité même. Et dans le livre de l'Alliance, il dit explicitement que l'objet de ce verset, qui est issu de cette antique racine, est la plus puissante branche. Et il ordonne à tous les Aksan, les Afnan, et les parents et les Baha'i de se tourner vers lui. À présent, ou bien l'on doit dire que la beauté bénie a commis une erreur, ou bien il doit être obéi. Abdu'l-Baha n'a pas d'autre commandement à faire respecter, si ce n'est la diffusion des fragrances de Dieu, l'exaltation de sa parole, la proclamation de l'unité de l'humanité, l'établissement de la paix universelle, ainsi que les autres commandements de Dieu. Ce sont là des commandements divins, qui n'ont rien à voir avec Abdu'l-Baha. Quiconque le désire peut les accepter, et celui qui les rejette peut faire comme bon lui semble. Parmi ceux qui sèment la discorde, il en est qui, usant de nombreux stratagèmes, cherchent à prendre la direction. Et afin d'y parvenir, ils instillent le doute chez les amis pour susciter des différends, dans l'espoir que ceci provoque une scission. Mais les amis de Dieu doivent être vigilants. Ils doivent savoir que la propagation de ces doutes est motivée par des intentions personnelles et par l'ambition du pouvoir. Ne brisez point l'unité baï, et sachez que cette unité ne peut être maintenue que par la foi en l'Alliance de Dieu. Tu éprouves le désir de voyager afin de pouvoir répandre au loin les fragrances divines. C'est là un souhait hautement valable. Assurément, les confirmations divines t'assisteront et le pouvoir de l'Alliance et du Testament t'apportera le triomphe et la victoire. Chapitre 187. Ô toi qui es ferme dans l'Alliance, j'ai bien reçu ta lettre. Tu m'y exprimais ta satisfaction au sujet de la Convention, car ce rassemblement a permis l'élévation de la cause de Dieu et la démonstration du pouvoir de sa parole. La grandeur de la cause aplanira ses différends et peut se comparer à la santé du corps humain qui, une fois établi, élimine toute maladie et toute déficience. Notre espoir est que ne subsiste aucune trace d'opposition. Mais parmi les amis d'Amérique, certains sont agités dans leurs ambitions nouvelles et cherchent à l'ombre et en secret à découvrir tout ce qui peut engendrer la dissension. Dieu soit loué, de telles portes sont toutes closes dans le domaine de la cause de Baha'u'llah, car un centre spécial investi de pouvoir a été désigné. Un centre qui résout toutes les difficultés et élimine toutes les différences. La Maison universelle de justice, de la même manière, écarte toutes les différences. Tout ce qu'elle prescrit doit être accepté, et celui qui transgresse est rejeté. Or, cette Maison universelle de justice, qui est le corps législatif, n'a pas encore été instituée. Voyez par conséquent qu'il ne subsiste aucun moyen de dissension. Mais ce sont les désirs charnels qui provoquent les différends, et c'est le cas des violateurs. Ceux-ci ne doutent pas de la validité de l'alliance, mais des motifs égoïstes les ont entraînés vers cette condition. Ce n'est pas qu'ils ignorent ce qu'ils font, ils en sont parfaitement conscients, ce qui ne les empêche pas, pour autant, de manifester leur opposition. En bref, l'océan de l'alliance est tumultueux et vaste. Ils rejettent sur le rivage l'écume de la violation, et ainsi vous n'avez rien à redouter. Consacre-toi au service du Mashriqul Azkar et prépare-toi à propager les divines fragrances. Ne te consacre à rien d'autre qu'à cela, de crainte de disperser ton attention et de voir stagner ton œuvre. Chapitre 188. Ô vous, les bien-aimés d'Abdu'l-Baha, il y a bien longtemps désormais que mon oreille intérieure n'a perçu les douces mélodies émanant de certaines régions, ou que mon cœur ne s'en est réjoui. Et cela, malgré le fait que vous êtes sans cesse présent dans mes pensées et que je vous vois nettement devant moi. Le gobelet de mon cœur déborde du vin de l'amour que je vous porte, et mon désir ardent, celui de poser sur vous mon regard, court, tel l'esprit, à travers mes artères et mes veines. Ainsi, grande est mon affliction. Aujourd'hui, au milieu de cette tempête de calamité, agitant ses vagues jusqu'au plus haut des cieux, je suis assailli par une grêle de flèches cruelles et incessantes qui m'atteignent de tous les points cardinaux. À chaque instant, ici en Terre Sainte, me parviennent de terrifiantes nouvelles, et chaque jour apporte son contingent d'horreurs. Le centre de sédition avait imaginé que son arrogante rébellion suffirait à réduire en poussière l'Alliance et le Testament. Cela suffisait, pensait-il, à détourner les âmes justes du testament sacré. C'est pourquoi il a propagé de tous côtés ses feuillets de suspicion, élaborant maints projets secrets. Il clamait que l'édifice de Dieu avait été subverti et ses divins commandements annulés, et que, par là même, l'alliance et le testament étaient abolis. Puis il s'appliquait à soupirer et à gémir qu'il était retenu prisonnier, en proie à la faim et à la soif, de nuit comme de jour. Une autre fois, il suscitait un vacarme, déclarant que l'unicité de Dieu avait été reniée, puisqu'une autre manifestation avait été proclamée, avant l'expiration d'une période de 1000 ans. Lorsqu'il constata que ces calomnies demeuraient sans effet, il conçut progressivement un plan destiné à provoquer le trouble. Il commença à semer la discorde et se rendit de porte en porte. Il se mit à porter de fausses accusations auprès des fonctionnaires du gouvernement. Il prit contact avec des ressortissants étrangers, gagna leur intimité, et avec ceux-ci rédigea un document qu'il présenta au siège du sultanat, semant ainsi la consternation parmi les autorités. Une de ces nombreuses calomnies accusait cet infortuné d'avoir levé l'étendard de la révolte, un drapeau portant les mots « Ya Baha'u'llah ». J'étais accusé de l'avoir arboré en paradant à travers la campagne, dans chaque cité, chaque ville et chaque village, et même parmi les tribus du désert, invitant tous les habitants à s'unir sous ce drapeau. Ô mon Seigneur, en vérité, je cherche refuge auprès de toi à la seule pensée d'une telle action, contraire à tous les commandements de Baha'u'llah, et qui, en réalité, serait un insigne méfait que seul un sombre pécheur oserait jamais perpétrer, car tu as décrété qu'il nous incombe d'obéir aux dirigeants et aux rois. Une autre des calomnies du centre de sédition arguait que le tombeau sur le mont Carmel était une forteresse que j'avais bâtie, solide et inexpugnable. Alors que le bâtiment en construction comporte 6 pièces, et que je l'avais appelée Médine la Splendide, alors qu'en réalité, je nommais le tombeau sacré la Mecque la Glorifiée. Selon une autre encore de ces calomnies, j'aurais établi une souveraineté indépendante. Et Dieu m'en préserve, Dieu m'en préserve. J'aurais invité tous les croyants à se joindre à moi pour perpétrer ce méfait collectif. Combien sinistre, ô mon Seigneur, est sa calomnie. Pourtant, il prétend encore que puisque le tombeau sacré est devenu un lieu de visite pour les pèlerins venus du monde entier, ce gouvernement et ce peuple subiront ainsi de grands dommages. Lui, le centre de la sédition, allègue qu'il n'a pris lui-même aucune part à tous ces événements, qu'il est un sunni orthodoxe, des sunnites, et un disciple dévoué d'Abou Bakr et d'Oumar, et considère Baha'u'llah simplement comme un homme pieux et un mystique. Toutes ces choses, déclare-t-il, ont été mises sur pied par cet opprimé. Pour résumer, une commission d'enquête fut désignée par le sultan. Que la gloire de son règne soit durable. Cette commission vint ici même et, dès son arrivée, se rendit au domicile de l'un des accusateurs. Puis elle convoqua le groupe qui, travaillant avec mon frère, avait rédigé le document accusatoire et lui demanda s'il reflétait la vérité. Le groupe expliqua la teneur du document, déclara que tout ce qui y était consigné n'était autre que la vérité, et ajouta d'autres chefs d'accusation. Ainsi, ce groupe faisait fonction tout à la fois de plaignant, de témoin et de juge. La commission est maintenant de retour au siège du califat. Les récits les plus terrifiants parviennent chaque jour de cette cité. Toutefois, Dieu soit loué, Abdu'l-Bahâ demeure calme et impassible. Je ne garde rancune à personne pour ses diffamations. Je m'en suis remis pour toutes mes affaires à son irrésistible volonté. Et j'attends, dans un bonheur parfait, d'offrir ma vie en sacrifice, prêt à toutes les pires afflictions qui pourraient m'être réservées. Grâce à Dieu, les croyants, eux aussi, acceptent et demeurent soumis à la volonté divine. Satisfaits de leur sort, radieusement consentants, ils rendent grâce. Le centre de sédition a imaginé que le sang de cet être opprimé, une fois répandu, lorsque j'aurais été abandonné sur le sable de l'immense désert ou noyé dans la mer Méditerranée, disparu dans l'anonymat, sans laisser de traces, sans personne pour témoigner à mon sujet, alors il disposerait enfin d'un terrain où il pourrait enfourcher son destrier et, armé de son maillet de mensonges et de suspicions, frapper violemment la balle de polo de ses ambitions et remporter la victoire. Il s'en faudrait de beaucoup. Car même si le parfum subtil du musc de fidélité disparaissait sans laisser aucune trace, qui serait attiré par l'odeur nauséabonde de la perfidie? Et même si quelques gazelles célestes venaient à être déchiquetées par des chiens et par des loups, qui accourrait pour découvrir un loup enragé? Même si le jour du rossignol mystique touchait à sa fin, qui prêterait jamais l'oreille au croassement du corbeau? Quelle vaine supposition que la sienne! Quelle folle présomption! Leurs œuvres sont comme la vapeur dans un désert. La soifée rêve qu'elle ait de l'eau jusqu'à ce que, parvenu au but, il ne trouve que le néant. Voir Coran 24, 39. Ô vous, bien-aimés de Dieu, ayez le pied ferme et le cœur constant, et par le pouvoir de l'assistance de la beauté bénie, soyez résolus dans vos intentions. Servez la cause de Dieu. Faites face à toutes les nations du monde avec la constance et l'endurance du peuple de Baha, afin que chacun soit stupéfait et s'interroge. Comment peut-il se faire que vos cœurs soient des sources de confiance et de foi, des mines regorgeant de l'amour pour Dieu? Soyez tels que vous ne faillirez et ne vacillerez à cause de ces tragédies survenues en Terre Sainte. Ne vous laissez pas abattre par ces terribles événements. Et si tous les croyants étaient passés par les armes, et qu'il n'en restait qu'un, que celui-là élève sa voix au nom du Seigneur, et qu'il répande la bonne nouvelle, qu'il se lève pour affronter tous les peuples de la terre. Ne considérez pas les affreux événements survenus en ce lieu illuminé. La Terre Sainte est en danger à tout instant, et ici, la marée des calamités est toujours montante, car cet appel a été entendu de par le monde, et sa rumeur est parvenue aux extrémités de la terre. C'est pourquoi les ennemis, tant de l'intérieur que de l'extérieur, se sont appliqués avec subtilité et talent à propager leur calomnie. Il est clair qu'un lieu comme celui-ci serait exposé au danger, car ici il n'y a nul défenseur, personne pour se lever et prendre notre parti face à la calomnie. Personne à part quelques âmes sans gîte, infortunées, retenues captives en cette forteresse. Elles n'ont pas de défenseur. Il n'est personne pour les secourir, personne pour détourner les flèches du mensonge, les traits de la diffamation qui leur sont assénés. Personne, excepté Dieu. Il vous sied de méditer sur le sort de tous ces bien-aimés qui se hâtèrent vers le terrain sacré du sacrifice, de ces âmes précieuses qui offrirent leur vie. Gardez en mémoire ces flots de sang sacré déversés. Combien de cœurs droits furent mélangés à leur sang? Combien de poitrines furent la cible de l'épée de la tyrannie? Combien de chastes corps furent dépecés? Alors comment pourrions-nous même songer à nous sauver, à nous insinuer dans les bonnes grâces d'un étranger ou d'un parent et à feindre un compromis? Ne devrions-nous pas plutôt prendre le chemin de la rectitude et suivre les traces de ces grandes âmes disparues? Ces quelques brèves journées passeront. Cette vie présente s'effacera de notre vue. Les roses de ce monde perdront leur fraîcheur et leur beauté. Le jardin des triomphes et des délices de cette terre languira et s'évanouira. Le printemps de vie se changera en automne de mort. La joie brillante des halls de palace fera place à la nuit sans lune des tombeaux. C'est pourquoi rien de tout cela n'est digne de notre amour, et le cœur du sage ne s'y attachera pas. Celui qui dispose de la connaissance et du pouvoir recherchera plutôt la gloire céleste, la distinction spirituelle et la vie éternelle. Il languit de s'approcher du seuil sacré de Dieu. Car dans la taverne de ce monde éphémère, l'homme de Dieu ne se vautrera pas dans l'ivrognerie. Pas un seul instant il ne prendra ses aises, ni ne se souillera par l'attachement à cette vie terrestre. Au contraire, les amis sont des étoiles dans les cieux de la direction, des corps célestes dans le firmament de la grâce divine, qui, de toute leur puissance, font s'envoler les ténèbres. Ils abattent les fondements de malveillance et de haine. Ils ne nourrissent qu'un seul désir pour le monde et tous ses peuples, paix et bien-être. Par eux, les remparts de guerre et d'agression sont démolis. Ils font preuve de fidélité, d'honnêteté et d'amitié pour parvenir à leur but, et de bonté même envers un ennemi cruel, jusqu'à ce qu'enfin, ils transforment cette prison de traîtrise, le monde, en une demeure de confiance extrême, et cette geôle de haine, de malveillance et de mépris en divin paradis. Ô vous, amis aimants, efforcez-vous, corps et âme, de faire de ce monde le reflet du royaume, afin que ce bas monde regorge des bénédictions du royaume de Dieu, que les voix de l'assemblée divine s'élèvent en acclamations, et que les signes et marques des générosités et des bienfaits de Baha'u'llah embrassent la terre tout entière. Jinnah Bi'Amin a exprimé la plus grande admiration pour vous, hommes révérés et femmes illuminées, vous mentionnant et vous louant tous, l'un après l'autre, parlant longuement de la fermeté et de la constance dont vous avez tous fait preuve, et disant que, Dieu soit loué, dans toute la Perse, hommes et femmes se tiennent ensemble, droits, forts, immuables, un puissant édifice solidement érigé, et que vous vous appliquez, avec amour et joie, à répandre de par le monde les subtils parfums du Seigneur. C'était là des nouvelles de grande joie, d'autant plus qu'elles me sont parvenues en ces jours de péril extrême. Car le souhait le plus cher de cet opprimé est que les amis aient le cœur spirituel et l'esprit illuminé. Et une fois que m'est accordée cette grâce, les calamités, aussi affligeantes soient-elles, ne sont que munificence déversée sur moi, telle une pluie abondante. Ô Dieu, mon Dieu, tu me vois plongé dans un océan d'angoisse, solidement enchaîné au feu de la tyrannie et pleurant dans l'obscurité de la nuit. Je ne cesse de me retourner dans mon lit, en quête de sommeil, les yeux avides de contempler la lumière matinale de fidélité et de confiance. J'agonise tel un poisson dont les entrailles sont en feu, tandis qu'il bondit çà et là sur le sable, terrifié. Pourtant, je guette sans cesse de tous côtés l'apparition de tes bienfaits. Ô Dieu, mon Dieu, fais que les croyants d'autres pays participent à ton abondante grâce. Délivre par ton aide et ta générosité infaillible quiconque parmi tes bien-aimés, dans les régions les plus lointaines, déplore l'amère cruauté de son ennemi. Ô Seigneur, ils sont captifs de ton amour, prisonniers de tes troupes. Ils sont les oiseaux qui volent dans les cieux de ta direction, les baleines qui nagent dans l'océan de tes bienfaits, les étoiles qui scintillent à l'horizon de tes dons. Ils sont les défenseurs de la forteresse de ta loi. Ils sont les bannières de ton souvenir parmi les hommes. Ils sont les puits profonds de ta divine compassion, les fontaines de tes faveurs, les sources de ta grâce. Garde-les toujours en sécurité sous ton regard très protecteur. Aide-les à exalter ta parole. Fais que leur cœur demeure constant dans ton amour. Redresse leurs échines afin qu'ils puissent te servir efficacement. Dans la servitude, affermis leur pouvoir. Répands par eux tes subtils parfums jusqu'aux extrémités de la terre. Expose à travers eux tes écrits sacrés. Par eux, fais connaître ton verbe. Accomplis par eux tes paroles. Par eux, déverse ta miséricorde. Tu es en vérité le puissant. En vérité, tu es le clément, le compatissant. Chapitre 189. Aujourd'hui, chaque être sage, vigilant et prévoyant est éveillé, et les mystères de l'avenir lui sont dévoilés, qui témoignent que rien, si ce n'est le pouvoir de l'Alliance, n'est capable de remuer le cœur de l'humanité. De même que le Nouveau et l'Ancien Testament exposèrent à travers toute la terre la cause du Christ et furent la force pulsatoire dans le corps du monde humain. Un arbre ayant une racine donnera des fruits, alors que celui qui en est dépourvu, si haut et robuste qu'il puisse être, est appelé à se flétrir, à périr et à devenir une simple bûche tout juste bonne à faire du feu. L'Alliance de Dieu est semblable à un vaste océan insondable. Une lame en surgira qui rejettera sur le rivage toute l'écume amoncelée. Dieu soit loué. Le souhait le plus noble des âmes attentives est l'exaltation de la parole de Dieu et la propagation des divines fragrances. Ceci est, en vérité, le fondement sûr et résistant. Maintenant, semblable au matin, la lumière du soleil de vérité a été diffusée à travers le monde. Il faut s'efforcer de réveiller les âmes assoupies, de rendre vigilants les inattentifs, et faire en sorte que les enseignements divins, qui constituent l'esprit de cet âge, parviennent aux oreilles des habitants du monde, qu'ils soient propagés à travers les gazettes et exposés, avec éloquence et talent, dans les assemblées humaines. Notre conduite doit ressembler à celle de Paul, et notre foi doit être semblable à celle de Pierre. Cette brise musquée parfumera les narines des habitants du monde, et cet esprit ressuscitera les morts. L'odeur agressive de la violation a momentanément arrêté la progression de la cause. Sans cela, les enseignements divins, tels les rayons du soleil, se répandraient et pénétreraient aussitôt dans toutes les régions du monde. Tu as l'intention d'imprimer et de publier les causeries d'Abdul-Baha que tu as recueillies. C'est là en vérité une fort louable tâche. Elle te permettra d'acquérir un rayonnant visage dans le royaume d'Abba et fera de toi un objet de louange et de gratitude de la part des amis, en Orient comme en Occident. Mais ce service doit être entrepris avec un soin extrême, afin que soit reproduit le texte exact des causeries, à l'exclusion de toute déviation et altération commise dans les traductions antérieures.